Documentaire, reportage.
Un podcast proposé par Regards Protestants.
Pour le théologien et voyageur Antoine Nuis, l'éloge du voyage parcourt toute la Bible comme l'éloge de la curiosité spirituelle. L'hospitalité, la disponibilité à l'inattendu, à l'inespéré. Pour lui, le plus beau des voyages, c'est celui qu'on fait l'un vers l'autre. « Allez voir ailleurs, nous dit-il, ce que les étoiles racontent aux bergers. »
Dans mon histoire, il y a eu un voyage qui a été assez important, c'est que j'étais pasteur, j'ai eu un premier poste au bout de 7 années de ministère, j'ai ressenti le besoin d'élargir mon bocal, d'aller voir ailleurs. Hein, parce que finalement, je m'étais rendu compte que moi, j'avais grandi dans une église réformée, j'avais fait mes études de théologie dans une église réformée française, j'avais été pasteur, et c'était très bien, mais je ressentais le besoin d'aller voir ailleurs. Et alors, j'ai eu le privilège de pouvoir passer une année avec mon épouse et mes 4 enfants. On est parti dans une communauté de vie ménonite aux États-Unis. Et ça a été pour nous une expérience très fondatrice, et au niveau familial, et y compris, j'allais dire, au niveau spirituel et théologique, notamment parce que finalement, je me suis rendu compte que moi, j'avais reçu l'évangélisme à travers un prisme qui était la culture française et la culture théologique réformée. Et là, en voyant l'évangile vécu dans une autre culture théologique ménonite, non violente, et dans une autre culture, la culture américaine, et quelque part, ça m'a peut-être aidé à mieux voir qu'est-ce qui relevait de l'évangile, si on peut dire qu'il y a un pur évangile, et qu'est-ce qui relevait de ces adaptations culturelles. Hein. Et donc, ça a été, le voyage a permis cette prise de distance qui m'a aidé à entendre ce qui était vraiment l'essentiel et le cœur dans l'Évangile. Bah, le propre de la théologie, c'est de se laisser interpeller par une parole qui m'est extérieure, hein, qui vient d'un autre, un autre avec un grand A ou avec un petit A, hein, qui vient d'un autre. Et c'est sûr que de voyager, c'est peut-être se laisser la possibilité d'être surpris et, disons-le, d'être nourri, d'être enseigné, d'être interpellé justement par cet autre. Hein. Dans le Nouveau Testament, on voit le thème de l'hospitalité de la parole. C'est-à-dire qu'on voit que Jésus, la première fois qu'il arrive à la synagogue de Capharnaüm, tout à coup les gens arrivent, c'est qui celui-là? On ne le connaît pas. Et il lui donne la parole, il dit, toi qui viens de loin, as-tu quelque chose à nous dire? Des fois que, à travers toi l'étranger, Dieu aurait une parole pour nous. Et on s'aperçoit que Paul, dans les Actes des Apôtres, a bénéficié de cette hospitalité, que chaque fois qu'il allait dans une nouvelle ville pour essayer de dire l'évangile, la première chose qu'il faisait, c'était se rendre à la synagogue, et les gens de la synagogue lui donnaient la parole. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce d'hospitalité de dire que celui qui vient d'un ailleurs pourrait bien être porteur d'une parole de Dieu pour nous. Je crois que le propre de la démarche du face-à-face, du dialogue, hein, le mot dialogue c'est dialogos, et dia c'est à travers, et logos c'est la parole. C'est comment donc je me laisse traverser par la parole de l'autre, et comment peut-être que ma propre parole peut traverser l'autre. Et le vrai dialogue en profondeur, qui est ce jeu de parole contre parole, etc., se disent que quelle est ta vérité, quelle est ma vérité, comment ces vérités se rencontrent, s'interpellent, se croisent, se séparent. Et c'est, je dirais, et il est bien évident que quand on arrive à ce niveau de dialogue, eh ben je dirais que les deux vérités ne sont plus contradictoires, mais les deux vérités, même si elles sont différentes, rentrent en opposition l'une par rapport à l'autre. C'est que le contraire d'une vérité profonde, c'est une autre vérité profonde. Et deux vérités profondes nous aident à nous comprendre l'un l'autre et à se comprendre soi-même. Et il est clair que de vouloir être dans cette rencontre de vérité m'aide moi aussi à intégrer ce qui est le plus profond en moi et à mieux prendre conscience de quelle est la vérité qui me fait vivre. Dans l'Antiquité, il y a une grande tension dans l'Antiquité, cette tension entre les nomades et les sédentaires, hein, ceux qui sont dans une terre, qui sont attachés à une terre, et ceux qui sont en voyage. Et cette tension-là se relève dès les premiers chapitres dans le récit de Caïn et Abel. Hein. Caïn était cultivateur, Abel était nomade. Et Abel était donc berger, hein, et donc était quelqu'un qui avait l'habitude de voyager. Et on se rend compte que les grands hommes de la Bible ont très souvent été des bergers. Il me semble que ce n'est pas un hasard. Hein. Je veux dire, Abel était berger, Abraham était berger, et justement, il a répondu à sa vocation en appelant à partir. Hein. Je veux dire, Moïse a été berger au moment où il a reçu sa vocation. Il a reçu sa vocation quand il faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et même les bergers ont été les premiers... invité à célébrer à qui Dieu a annoncé la naissance de son fils au début de l'évangile de Luc. Donc on voit cette présence des bergers qui parcourt toute la Bible en disant que Dieu est de façon privilégiée avec les bergers. Peut-être parce que les bergers ne sont pas soumis par un espace, enfin ils n'ont pas de frontières, je veux dire, ils traversent. Peut-être aussi du fait que, de par leur nomadisme, eh ben, les bergers, plus souvent que les autres, contemplent ce que disent les étoiles, écoutent ce que raconte le vent, et donc sont plus dans une démarche spirituelle. Ça, il y a les bergers. Et puis après, quand on pense à... quand on pense au fondement, au grand texte fondateur du Premier Testament, je dirais, il y a... peut-être trois moments fondateurs, c'est un, la vocation d'Abraham, deux, la vocation de David, pardon, un, la vocation d'Abraham, deux, la vocation de Moïse, et trois, je veux dire, l'Exode, et dans l'Exode, la façon dont la médiation religieuse est organisée à travers le tabernacle, la tente de la rencontre et tout ça. Et quand on prend ces trois moment fondateur qui pose les fondements de la religion, on s'aperçoit qu'à chaque fois, ils sont articulés avec la notion de départ, de mise en marche, de voyage. Abraham, Dieu dit à Abraham, va vers le pays que je te montrerai. Il ne dit pas à Abraham, va à tel endroit. Il dit, va, pars, et je te montrerai là où tu dois aller. C'est-à-dire que c'est dans sa marche qu'Abraham découvrira l'appel, le fond, le fondement de la vocation que Dieu lui adresse. Hein. Donc, ce n'est pas en restant chez lui, mais en étant en marche que, je dirais, il accomplit sa vocation. Moïse, donc Moïse est berger. Dieu appelle Moïse à travers un buisson en feu. Et là, il dit à Moïse, va voir Pharaon, dis-lui de libérer mon peuple. Et Moïse dit, mais qui m'envoie? S'il me demande au nom de qui parles-tu, que devrais-je leur répondre? Et là, il y a cette fameuse réponse, je suis qui je sais, ou plutôt, je serai qui je serai. C'est-à-dire que Dieu ne se laisse pas définir dans un être, dans une définition, mais il se laisse définir par une histoire. Il dit, je serai avec toi. Et c'est dans ta marche, comme avec Abraham, que je me laisserai découvrir. Et c'est, c'est à travers la libération que tu sauras que je suis le libérateur. Et c'est à travers ma marche à tes côtés que tu sauras que je suis le Dieu de tes pères et que je suis le Dieu qui marche à tes côtés. Et puis donc, Abraham, Moïse. Et puis alors pour moi, le troisième temps, c'est que dans l'Exode, il y a tout ce récit, toute la deuxième moitié du récit de l'Exode est une description parfois assez fastidieuse de le coffre dans lequel ont été remises les tables de la loi, de la tente de la rencontre, de l'autel de l'encens et tout ça. Et dans cette donc qui est la façon dont la médiation religieuse s'organise entre Dieu et son peuple. Et là, il y a deux détails que je voudrais relever. Premièrement, lorsque Dieu donne ses instructions à Moïse, il lui dit « Tu me feras une demeure et je demeurerai au milieu de vous. » On s'attendrait à ce que Dieu dise « Tu me feras une demeure et j'habiterai cette demeure ». Non, la demeure n'est pas le lieu que Dieu habite, mais la demeure est le signe que Dieu est au milieu de son peuple. Et puis, dans les instructions, ça c'est le philosophe Emmanuel Levinas qui fait remarquer ça, dans les instructions concernant le coffre. Le coffre, donc c'est le coffre qui contenait les tables de la loi, c'est-à-dire le cœur de la parole de Dieu et de l'éthique d'Israël. Et le texte dit que dans le coffre, il y aura des anneaux sur le côté du coffre, il y aura des barres dans ces anneaux pour pouvoir le porter. Et le texte dit, même quand le coffre, quand vous arrêterez pour une halte, les barres ne seront pas retirées du coffre. C'est-à-dire que symboliquement, on devra toujours garder au coffre son caractère mobile. C'est-à-dire qu'il doit être toujours prêt au voyage, prêt au déplacement, prêt à accompagner son peuple, le peuple dans les dans ses déplacements. Et donc c'est l'idée d'un Dieu qui n'est pas figé dans un lieu, mais d'un Dieu qui accompagne un peuple dans son voyage. Et d'ailleurs c'est tellement vrai que ce caractère mobile de la présence de Dieu avec son peuple, symbolisé par la notion de tente, par la notion de corps de coffre transportable, etc. Cette notion sera perdue au moment de la construction du temple de Jérusalem. À ce moment-là, le temple de Jérusalem est construit sur les mêmes plans que la tente de la demeure, sauf que ça n'est plus une tente, mais c'est un lieu. On passe de la mobilité à l'immobilité, hein. Et dans l'histoire, on s'aperçoit que le temple sera beaucoup plus un lieu de pouvoir, un lieu, y compris un lieu d'idolâtrie, parce que l'idée de Dieu qui est derrière change. Ce n'est plus un Dieu qui marche avec son peuple, mais c'est un Dieu qui est dans un lieu sacré qu'on doit visiter pour pouvoir lui rendre un culte. Et ça, le changement entre un Dieu qui accompagne son peuple, un Dieu qu'il faut trouver dans un lieu, est une rupture plus que symbolique, c'est y compris une rupture dans notre représentation, dans notre compréhension de Dieu.
C'était Documentaire Reportage,
un podcast de Regards Protestants.